Je vous apporte le salut fraternel des syndicats confédérés, de l'enseignement, de la culture et de la formation professionnelle. Les syndicats qui m'ont mandaté à ce congrès m'ont demandé de voter le rapport d'activité de la Confédération. Un des plus récents communiqués confédérales, la semaine dernière, traitait de la constitutionnalisation de la rigueur. Vous savez, ce projet de loi constitutionnel qui consisterait à faire obligation au budget de respecter les critères du pacte de stabilité et de croissance, les critères de Maastricht. Et d'une certaine façon, mes camarades, cette constitutionnalisation de la rigueur, ce serait constitutionnaliser le blocage des salaires, l'allongement sans fin de la durée de cotisation pour nos retraites, la dislocation de la protection sociale, la privatisation et la destruction de tous les services publics, la RGPP et son cortège de contre-réformes et de fermetures de postes. Mes chers camarades, tout cela deviendrait constitutionnel. D'une certaine façon, ce serait le prélude à la constitutionnalisation de la misère, comme en Tunisie, comme en Égypte, au nom de la loi des marchés financiers et des institutions internationales. C'est dans ce contexte, mes chers camarades, que s'inscrit notre action syndicale. Ce contexte marqué par les directives des institutions internationales, de l'Union européenne et de ses directives. C'est dans ce contexte, par exemple, qu'interviennent les 16 000 suppressions de classes, de postes dans l'éducation nationale et leur cortège de classes fermées, de sections supprimées, avec tous les établissements, toutes les écoles concernées, suscitant la mobilisation des enseignants et des parents d'élèves. Mes chers camarades, il est tout à fait clair que les services publics et les fonctionnaires subissent d'ores et déjà cette politique. Je ne vais pas vous répéter la litanie des contre-réformes, lois et décrets qui sonnent comme autant de mauvais coups contre les services publics, contre les garanties statutaires des fonctionnaires, tout cela au nom de la RGPP. Mais mes chers camarades, tout cela voudrait dire encore moins de fonctionnaires, encore moins de services publics, encore moins d'écoles, encore moins d'hôpitaux, encore moins de salaires, encore plus de flexibilité. La loi votée en juillet 2010 sur la rénovation du dialogue social dans la fonction publique est un concentré de tous ces mauvais coups. Il s'agit, vous le savez, de transposer les accords de Bercy, la soi-disant modernisation du dialogue social dans la fonction publique. Accord de Bercy, signé par toutes les fédérations de fonctionnaires, sauf Force ouvrière. Accord de Bercy, qui font suite à la position commune. Accord de Bercy, qui font suite à la loi sur la représentativité dans le secteur privé. Il s'agit de tout mettre cul par-dessus tête pour les fonctionnaires. Le droit syndical, le statut, le paritarisme, rien n'y échappe. Il s'agit même d'introduire la possibilité de négocier dans la fonction publique. Mais mes chers camarades, la négociation dans le secteur privé, oui. La négociation dans le secteur public, oui. Dans la limite où il y a la préservation du statut, du cadre du statut, et le statut, lui, il n'est pas négocié, il est octroyé. Alors, mes chers camarades, on nous dit même que ce serait une grande avancée de nous introduire dans la fonction publique le principe de faveur. Mais mes chers camarades, nous défendons tous le principe de faveur dans le secteur privé. Mais dans la fonction publique de l'État, introduire le principe de faveur avec la possibilité de négocier au niveau régional, au niveau départemental, au niveau local, c'est transformer le syndicat en négociateur du détricotage, de la pulvérisation du statut général de la fonction publique et des statuts particuliers et de toutes les garanties statutaires qu'il porte.
Il a dû faire 6 minutes.
Alors, mes chers camarades, c'est un petit peu comme pour les retraites. On nous dit qu'il faut harmoniser le public et le privé. Mais à chaque fois, par les temps qui courent, qu'il y a harmonisation entre le public et le privé, il y a un baiser dans l'affaire. Vous le savez, mes camarades, l'harmonisation du public et du privé en matière de retraite, c'est imposer le pire et aux fonctionnaires et aux travailleurs du secteur privé et tout niveler par le bas concernant les retraites. Il en va de même du droit syndical, il en va de même de la représentativité, il en va de même de toutes les questions. Et puis regardons-y de plus près. On nous parle, et la loi du dialogue sur la rénovation du dialogue social le porte, d'un comité, d'un conseil supérieur commun aux trois versants de la fonction publique. Et il faut maintenant harmoniser les trois versants de la fonction publique. Mes chers camarades, il y en a trois versants de la fonction publique. Il n'y a pas un privilège ou une plus-value à l'un par rapport aux autres, les trois existent. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que les harmoniser en ce moment, c'est la même politique qu'harmoniser le public et le privé. C'est harmoniser par le bas. C'est rogner toutes les garanties des territoriaux, des hospitaliers et des fonctionnaires de la fonction publique de l'État. Et cela, nous n'en voulons pas. Alors, mes chers camarades, cette loi sur la rénovation du dialogue social, je ne pense pas qu'il y ait lieu de faire le tri entre les bons et les mauvais côtés. Mais c'est comme pour la loi de 2008 sur la représentativité. Il faut demander l'abrogation. Il faut la jeter. C'est une loi inique. C'est une loi de destruction du statut général de la fonction publique. Et puis, dans l'actualité, il y a un dossier qui concrétise un petit peu toutes ces questions. C'est le dossier des non-titulaires. Le gouvernement a ouvert une négociation sur les contractuels dans la fonction publique. 800 000 précaires contractuels dans la fonction publique. La négociation est mal nommée. Elle ne s'appelle pas négociation pour la titularisation. Elle s'appelle négociation contre la précarité. C'est déjà mieux nommé. Mais de quoi s'agit-il ? En réalité, on veut petit à petit, par différents processus, transformer les 800 000 non titulaires en CDI dans la fonction publique, ce qui prendra du temps. Et on va créer une grosse poche de CDI dans la fonction publique. Quel CDI ? Ça reste à regarder encore. Ça reste à regarder. Et ces 800 000 CDI, ils seraient dans une poche, c'est-à-dire dans une nasse de laquelle ils ne sortiraient jamais vers la titularisation, car ce n'est pas un plan de titularisation, ce n'est pas un plan d'accès au statut général et au statut particulier. Et dans cette discussion, mes chers camarades, ne faut-il pas que nous rappelions avec notre Fédération Générale des Fonctionnaires et avec l'UIFP, ne faut-il pas que nous rappelions que jamais il n'y aura la signature de Force Ouvrière sur un plan qui introduirait les CDI dans la fonction publique, trois versants de la fonction publique. Mes chers camarades, c'en serait fini du statut, des statuts. C'en serait fini parce que, une fois que vous auriez cette poche, cette nasse de CDI au milieu des fonctionnaires au statut, la prochaine étape, mais elle est inscrite, que dis-je, elle est écrite, c'est le recrutement de contractuels sur des emplois permanents de fonctionnaires, c'est la disparition des concours de recrutement, c'est la privatisation totale, complète et définitive de la fonction publique et du statut. Voilà, mes camarades, ce qui est en jeu à travers cette négociation, et je suis convaincu que sur la base de nos mandats de congrès, l'AFGF et l'UIFP sauront porter nos revendications en défense du statut sur ce dossier. Mes chers camarades, c'est dans ce contexte que vont intervenir, et plusieurs orateurs en ont déjà parlé, les élections du 20 octobre 2011. 3,5 millions d'électeurs, un enjeu considérable, celui de notre représentativité, car là aussi le parallèle est de mise. La loi de 2008, elle était faite pour nous éradiquer, elle était faite pour conduire au syndicat unique. Eh bien, la loi de 2010 dans la fonction publique, elle est faite aussi pour nous réduire, pour nous marginaliser et pour conduire à la représentation syndicale unique dans la fonction publique. Donc l'enjeu de ces élections, ce n'est pas seulement un enjeu pour nos syndicats de fonctionnaires, c'est un enjeu pour toute notre confédération, c'est l'enjeu de la représentativité de force ouvrière chez les salariés de ce pays, dans des conditions qui vont être extrêmement difficiles. Parce que, mes chers camarades, même le corps électoral est modifié. Même le corps électoral est modifié. Par exemple, dans la fonction publique de l'État, nous votions pour des CAP et l'organisation sur sa représentativité acquise dans les CAP désignait des représentants dans les comités techniques paritaires. Bien, ces comités techniques paritaires, ils ne seront plus paritaires et deuxièmement, ils deviennent l'endroit pour lequel il faut élire. Mais l'instituteur ou le professeur ou l'infirmière scolaire, toutes les catégories particulières voteront dans un corps électoral unique qui préfigure le corps unique, l'abandon des statuts particuliers de corps fondés sur des missions, comme dans toute la fonction publique de l'État. Et mes chers camarades, bien sûr, pour cela, il vaut mieux recruter des gens en contrat que les recruter au statut avec des qualifications, un concours et des missions. Alors, mes chers camarades, j'en termine ici. Nous allons faire campagne pour les salaires, pour la valeur du point d'indice, pour l'indépendance, pour le statut, pour le code des pensions, pour des services publics, parce que notre tradition à force ouvrière, c'est la tradition fondatrice des services publics, c'est la tradition de la République, c'est la tradition de 1789, celle de 1793, celle qui créait l'égalité d'accès des citoyens aux emplois de la fonction publique et celle qui inscrivait dans le marbre l'indépendance des fonctionnaires, y compris par rapport au pouvoir politique. Je vous remercie, mes camarades. Vive la CGT Force ouvrière !